EMCI TV vous présente l'émission Teach avec Atoms. Un temps d'enseignement et d'étude de la parole de Dieu afin de faire de vous des disciples et vous aider à grandir dans votre foi.
Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Aujourd'hui, nous allons continuer quelque chose que nous avons commencé il n'y a pas longtemps. Nous sommes en train de parler des attributs de l'amour, en train de voir l'amour dans toutes ses facettes. L'amour dont parle Paul dans 1 Corinthiens chapitre 13. Il fait suivre cette idée-là de plusieurs attributs, de plusieurs adjectifs. Il personnalise l'amour. Il dit ce que l'amour est et ce que l'amour n'est pas. Aujourd'hui, nous allons étudier l'idée de la malhonnêteté autour de l'amour. L'amour n'est pas malhonnête. Qu'est-ce que ça signifie en réalité? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Lorsqu'on parle de l'amour, je crois que nous nous positionnons tous dans cette direction. Nous avons tous quelqu'un à aimer. Nous avons tous besoin d'être aimés. On aime un ami, un frère, une sœur, on devient amoureux, amoureuse de quelqu'un, quelqu'un avec qui on veut partager sa vie, fiancé, et puis après marié. On aime les parents, les enfants, on aime frères et sœurs dans le Seigneur, on aime ses dirigeants spirituels, on aime les membres qui constituent notre église, notre organisation, on aime sa patrie, on aime des gens avec qui on travaille. L'amour, on doit l'exercer devant tout le monde, même des fois devant des parfaits inconnus, à peine qu'on les rencontre, sans qu'on ait besoin d'imaginer, de savoir qui ils sont vraiment, mais on a rendu notre amour disponible et déjà prêt à être utilisé. Alors l'amour, si on doit vivre cet amour, quel qu'en soit le contexte, quel qu'en soit le milieu, l'amour lorsqu'il vient de la nature de Dieu, eh bien cet amour a un visage, a des facettes, dont Paul parle dans 1 Corinthiens chapitre 13. Et dans son discours, il arrive au verset 5, il dit que l'amour n'est pas malhonnête. En étudiant ce texte, vous verrez que Paul fait sept affirmations. Il parle de l'amour de sept manières à la voix affirmative et neuf manières à la voix négative. Il dit ce que l'amour est et il dit ce que l'amour n'est pas. Parmi les choses dont l'amour n'est pas, eh bien l'amour n'est pas malhonnête. Si vous aimez vos parents, vous ne pouvez pas être malhonnête avec eux. Si vous aimez votre femme, votre mari, vous ne pouvez pas être malhonnête avec eux. Si vous aimez vos enfants, si vous aimez vos collaborateurs, si vous aimez votre pasteur, vous aimez les frères et sœurs qui viennent dans votre assemblée, vous aimez ceux de votre nation, si vous dites que vous êtes en train d'exprimer de l'amour, eh bien, retirez dedans toute forme de malhonnêteté. Mais ça signifie quoi? Ça signifie premièrement, que l'amour agit avec honneur, pas d'indécence. En fait, l'amour n'est pas malhonnête, signifie l'amour est plein d'honneur et pas d'indécence. L'amour n'est pas indécent. Le mot que Paul utilise ici dans le texte pour dire n'est pas malhonnête, en grec c'est ouk hachemone, qui signifie simplement conduite digne qui ne fait pas honte. Une conduite digne qui ne fait pas honte. Une conduite honorable. Ça ne fait pas honte à Christ. Une conduite honorable. Une conduite digne. Ça ne fait pas honte. Tu ne fais pas la chose, on se dit, non, mais comment il a pu faire une chose pareille? Tout le monde se cache, il dit, non, il ne faut même pas qu'on sache qu'on est ensemble. C'est tellement honteux. Quand on aime, on ne pose pas de tels actes vis-à-vis de la personne que l'on aime. 1 Corinthiens chapitre 13, justement, verset 5, d'où vient tout ceci? 1 Corinthiens 13, 5. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. On dit « elle » ici parce que c'est la version seconde et on utilise le mot « charité », la charité. Donc, elle ne fait rien de malhonnête. Dans les émissions précédentes, j'ai eu l'occasion de pouvoir expliquer l'idée de charité et l'idée d'amour, pourquoi c'est traduit dans la version seconde en charité. 1 Pierre chapitre 2, verset 12. 1 Pierre 2, 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Paul, Pierre plutôt, édifie les chrétiens en leur disant, écoutez, frères et sœurs, parmi les non-croyants, qu'on voie vos bonnes œuvres, qu'on regarde votre conduite, elle soit si honorable que ces gens qui ne connaissent pas Dieu, le jour où Dieu se manifeste à eux, ils se disent, ouais. On glorifie Dieu parce qu'on l'a déjà vu au travers de ce frère, au travail de cette sœur-là. L'amour agit avec honneur. Quand tu aimes quelqu'un, il doit se sentir honoré. T'es senti honoré? T'es senti honoré par tes parents? T'es senti honoré par tes enfants? T'es senti honoré par ton mari, par ta femme, par ta fiancée, par ton frère, par ta sœur? Si une personne se plaint en disant « j'ai l'impression que vous ne m'aimez pas », regardez peut-être dans le domaine de l'honneur. Est-ce que cette personne se sent-elle honorée? Voici cette phrase à retenir. L'amour laisse l'honneur partout où il passe. L'amour laisse l'honneur partout où il passe. Quand quelqu'un aime, il quitte un endroit en ayant honoré les gens qu'il a trouvés. L'amour laisse de l'honneur. C'est ce que ça veut dire, l'amour n'a rien de malhonnête. Ça veut dire que l'amour ne fait rien de honteux. L'amour est plein de dignité. Quand quelqu'un t'aime, il te fait sentir honoré. Des fois, on se dit, « Ah, mais pasteur, tu sais, j'aime beaucoup cette jeune fille, je suis tellement amoureux d'elle. » Mais lorsqu'au quotidien, elle ne se sent jamais honorée, comment veux-tu qu'elle perçoive l'amour dont tu parles? L'amour s'exprime par l'honneur qu'on accorde à l'autre. Deuxième vérité, quand on dit que l'amour n'est pas malhonnête, ça veut dire l'amour dit la vérité. Pas de mensonges ni de ruses. L'amour dit la vérité. N'oubliez pas, le mot ici, c'est faire tout ce qui est, on fait tout ce qui est digne, ce qui n'est jamais sujet de honte. L'amour n'est pas malhonnête, ça veut dire l'amour n'a pas de tromperie derrière la tête. L'amour ne dit que la vérité. Il n'y a pas de ruse, il n'y a pas de mensonge. Si vous aimez, vous devez haïr le mensonge vis-à-vis de cette personne-là. Celui qui aime ne va pas mentir. Quand tu es rempli dans ton cœur de l'amour de la personne, tu fais de ton mieux de toujours lui dire la vérité. Toujours lui dire la vérité. Vous savez, des fois, c'est par souci de protection. On s'est dit, non, mais si je lui dis toujours, tout le temps, peut-être qu'il est fragile. J'ai appris avec le temps, à mes dépens, malheureusement, qu'à un certain niveau, il n'est pas de notre responsabilité de décider si une chose va vraiment faire du mal à quelqu'un ou pas. C'est la décision de la douleur, de l'intensité de la douleur lui revient à lui. Moi, ma responsabilité, c'est de dire la vérité avec douceur, amour, en faisant de mon mieux de ne pas lui jeter ça sur le visage, mais de lui dire avec tout l'amour et toute la considération nécessaire. Parce que c'est comme ça qu'on amène les gens au salut. On leur dit la vérité sur leur péché, même si c'est dur à entendre, mais c'est la vérité. Et cette culture devrait rester en nous. Si nous montrons au monde qui nous entoure l'amour de Dieu en leur disant la vérité sur leurs conditions de vie, avec souplesse, avec douceur, avec amour, en tournant notre langue cette fois, eh bien, ça va rester notre culture dans toute autre forme d'amour. Dire la vérité, ce n'est pas le moyen juste pour l'évangélisation. C'est l'attitude naturelle de celui qui aime. Nous ne disons pas aux gens la vérité juste pour qu'ils entrent au royaume de Dieu. Non, nous leur disons la vérité parce que c'est l'expression de l'amour de Dieu pour eux. Alors, ne limite pas ta vérité dans le domaine de l'évangélisation. Fais de ça ta vie. Dis la vérité aux amis. Dis la vérité aux collaborateurs. Dis la vérité à la femme. Dis la vérité au mari. Dis la vérité aux enfants. L'amour ne fait rien de malhonnête. Éphésiens chapitre 4, verset 25. Éphésiens 4, 25. C'est pourquoi renoncez aux mensonges. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Voilà. Renoncez aux mensonges, que chacun de vous parle à la vérité, avec vérité à l'un à l'autre. Si vous voulez voir, venir à un endroit où l'amour commence à partir, où l'amour est en train de sortir par la porte de derrière, sachez-le bien que c'est parce que par la porte d'avant, les mensonges ont commencé à entrer. les ruses et les tromperies. On commence à réfléchir, les calculs ont commencé à se faire. Et derrière les mots, les gens ne disent plus ce qu'ils disent tout haut. Ils expriment une chose en cachant une autre. Quand les paroles deviennent des moyens de couvrir les intentions, on est de les exprimer. Quand les paroles deviennent des couvertures des véritables pensées, au lieu d'en être les moyens d'expression. Le mensonge commence à s'installer sans qu'on l'appelle par ce nom-là. On utilise d'autres termes pour appeler sagesse, demi-vérité. Sachez que vous êtes en train de faire du tort à l'amour. Vous causez du tort à l'amour lorsque la ruse, les mensonges commencent à remplacer et la vérité n'a plus sa place. Entre frères et sœurs, entre amoureux, père, fils, mère, fille, entre membres de la même famille, frères et sœurs, pasteurs, église, quelles que soient les relations d'amour, la vérité doit être au centre. Colossiens chapitre 3, verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Paul est clair, ne mentez pas les uns aux autres. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous vous êtes dépouillé du vieil homme et de ses œuvres. Le mensonge rentre à l'église, rentre dans nos maisons, rentre dans nos vies, mais il ne porte pas le même nom. Pose la question au chrétien, est-ce que tu es un menteur? Il dira, non, moi je suis enfant de Dieu. J'ai donné ma vie au Seigneur, je ne suis pas un menteur. Mais quand tu regardes sa vie, c'est rempli de mensonges à gauche et à droite. Il a donné d'autres noms, des belles justifications. Pourquoi? Parce que nous avons une mauvaise façon de réfléchir. Retenez bien cette phrase. Le mensonge protège mon ego. La vérité protège notre amour. C'est parce que nous pensons tout le temps que le mensonge nous protège. On se dit, si je mentis, ça me protégera. Un jour, mon fils est venu et son école s'est plaignant en disant, mais il ment beaucoup. On lui demande un truc, il ment, il dit une chose et puis il ment. Il ne s'était pas rendu compte que le mensonge l'aidait. En fait, mon fils s'était rendu compte que chaque fois qu'il veut une chose, on lui dit « Est-ce que tu as fait ceci ? Roland, tu as fait ceci ?» Il dit « Il hésite un peu. » Il s'est dit « Si je lui dis oui, il va s'en aller alors. Il va me laisser jouer. » Il dit « Oui. » Et puis toi, tu vas sans rien vérifier. Roland, tu as fait ta chambre ? Il te regarde et dit oh, « Si je dis non, il va me dire d'aller faire. » Et puis « Donc, je vais rater mon film préféré. » Il dit « Oui. » Mais parce que dans sa tête, il dit oh, « Je veux faire qu'il aille d'abord, j'irai après. » Le mensonge commence comme ça, légèrement. C'est dit, j'ai utilisé ça pour sauver mon ego, pour sauver mes intérêts. J'ai utilisé ça pour me protéger. J'ai utilisé ça pour qu'on dise, on ne me frappe pas. J'ai utilisé ça pour qu'on ne s'énerve pas contre moi. En fait, celui qui ment a tendance à être égoïste. Derrière le mensonge, on ne pense qu'à soi-même. Le jour où je l'ai fait asseoir, mon fils, je lui ai dit, oh non, ça ne se passe pas comme ça. Et après cette mauvaise habitude, il s'est rendu compte que ça allait des... dans tout, à l'école, par-ci, par-là. Je me suis assis avec lui pour lui faire comprendre qu'est-ce que ça voulait dire un mensonge. Il n'en était pas conscient. C'est une habitude qu'il s'est rendu compte que bon, ça marche. Et bon, plus que ça marche, il a gardé ça. J'ai dû m'asseoir avec lui, je lui ai expliqué. Je lui ai dit, tu sais, si tu me dis ça, et puis après, je vais aller vérifier, je me rends compte que ce n'est pas ce qui était. Tu m'as menti. On dirait qu'il était stupéfait de comprendre que c'est ça, mentir. C'est dit, je mens pas. Dis oui, dans ta tête, tu imagines des choses. Mais c'est ça qu'est le mensonge. À partir de ces jours-là, du jour au lendemain, il a appris qu'il ne fallait pas. Il ne fallait pas tenter de croire que je vais faire passer le problème rapidement pour 5 minutes. Parce que la souffrance après sera grave. La trahison après sera grave. Celui qui ment ne pense qu'à lui. Dans le mensonge, quelqu'un essaie de protéger son ego, mais la vérité essaie de protéger l'amour. Quand on dit la vérité, on veut garder la relation, on ne veut pas la détruire. C'est pas la vérité, c'est ce monde dans lequel nous sommes qui nous fait croire que la vérité détruit les relations. Non, non, non. C'est la manière de le dire, à quel moment le dire, de quelle manière on l'a dit, à qui on l'a dit, ça peut avoir des conséquences. Jésus nous exhorte beaucoup de tourner notre langue cette fois, d'avoir la sagesse façon de le dire. La Bible nous parle de le faire avec douceur, mais il faut le faire. Mais quand quelqu'un multiplie des mensonges, il ne pense qu'à lui-même. Le mal avec le mensonge, c'est qu'il faut un mensonge 2 pour justifier le mensonge 1. Et il faut un mensonge 3 pour équilibrer les mensonges 2. Il faudra un mensonge 4 pour pérenniser les mensonges 3. Et il n'y aura que 2 mensonges, 1 mensonge. Il n'y aura pas une vérité qui va couvrir les autres mensonges. Quand la vérité arrive, elle va tout exposer. Si vous aimez, ne faites rien de malhonnête. Ne cachez pas la vérité. N'usez pas des ruses derrière pour une personne que vous aimez. Ne soyez pas rusé. Ne dites pas de mensonges. Comment voulez-vous dire que vous aimez quelqu'un, mais vous lui avez mis une boisson, quelque chose dans la boisson, qui soit l'affaiblit physiquement pour abuser de lui, ou soit l'excite physiquement sans qu'il s'en rende compte? Ça s'appelle du mensonge. Vous ne pouvez pas manipuler la relation dans une direction en appelant ça de l'amour. Troisièmement, lorsqu'on dit que l'amour ne fait rien de malhonnête, ça veut dire l'amour est réglo dans l'argent. L'un des domaines de honnêteté ou de malhonnêteté, c'est le domaine de l'argent, des finances, des échanges des ressources et des valeurs économiques. Le domaine de l'argent est l'un des domaines dans lequel l'amour est énormément éprouvé. Que l'on aime son frère, sa sœur, ses amis, ses enfants, ses parents, que l'on aime sa femme ou son mari, l'argent est l'un des domaines très, très, très complexes. Et quand on dit qu'on aime quelqu'un, la Bible dit « l'amour ne fait rien de malhonnête ». Cela signifie « l'amour est réglo en domaine d'argent ». 2 Corinthiens chapitre 8, verset 21 dit « car nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes ». C'est ça un chrétien. Nous recherchons ce qui est bien. On n'est pas là en train de se dire, non, moi, pour moi, c'est seulement Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur, je fais seulement ce que Dieu veut, parce que les hommes veulent. Non, non. La foi chrétienne veut veut une nature agréable à Dieu et une nature éprouvée par les hommes. Frères et sœurs, montrer à quelqu'un qu'on l'aime, c'est faire attention dans les interactions financières. Si c'est son argent, c'est son argent. Je vais vous donner un bon conseil, un conseil d'ami. Et regardez ça dans la Bible, vous verrez que la Bible nous explique ça avec d'autres mots. Ne prenez pas plaisir à vous endetter dans une relation d'amour. Quand vous avez déjà établi un amour bien clair, faites de votre mieux pour éloigner les dettes. Parce que les dettes entre vous vont soit corrompre moralement l'un ou l'autre, ou vont soit vous amener dans des sérieux problèmes au point de détruire cette relation. Je vous suggérerais encore de donner gratuitement ce que vous avez, mais de ne pas user dans son cœur de cette sensation de la dette. La Bible dit, n'ayez des dettes de personne si ce n'est la dette de l'amour. Ça veut dire, ne devez rien à personne si ce n'est de se dire au fond de son cœur que je le dois de lui montrer l'amour tout le jour. L'argent peut être un point de départ pour détruire toute amitié. Des gens étaient bons, un bon matin, ils se posent, ils parlent des questions d'argent, et puis c'est parti. Proverbe chapitre 11, verset 1. Proverbe chapitre 11, verset 1. La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. Mes amis, l'honnêteté en matière d'argent est l'expression de l'amour. Respectez les limites de l'argent. Si vous aimez des gens, ne leur prenez pas l'argent en utilisant les balances fausses. C'est-à-dire, ne faites pas votre commerce avec de la manipulation derrière pour récupérer de l'argent aux gens sans qu'ils se rendent compte de ce qu'ils sont en train d'acheter. C'est de l'amour, l'argent, les comptes financiers doivent être clairs. Si c'était 20, c'est 20. Si c'est 10, c'est 10. S'il ne t'a pas demandé de prendre, ne prends pas. Vaut mieux encore lui rendre tout et à lui de décider de te donner. Ne te dis pas, mais c'est mon ami, qu'est-ce qu'il va faire de 100$? C'est rien. Si je lui demandais, il va me le donner. C'est pourquoi je prends ça même sans demander. Faites pas ça. Écoutez bien ça. Des comptes clairs gardent des cœurs clairs. Des comptes clairs gardent les cœurs clairs. Lorsque les comptes sont clairs, on sait ce qu'on doit à chacun, de quelle manière et pourquoi, de quel montant. On ne vit pas dans une relation qui promène un montant que personne n'ose citer. Quelqu'un doit à l'autre, on cache ça au nom de sourire. Quand les comptes sont clairs, les cœurs sont aussi clairs. Si tu aimes, met le sujet de l'argent très bien au milieu et très bien au clair. Combien des couples ne meurent-ils pas à cause de la question de l'argent? Parce qu'après qu'on s'est dit qu'on s'aime, on s'aime. Et quand on touche le niveau de l'argent, on se rend compte qu'il est, qu'elle est malhonnête en ce qui concerne l'argent. Or, l'amour n'est pas malhonnête. Ça signifie l'amour est réglo dans l'argent, en ce qui concerne l'argent. Quatrièmement, l'amour respecte les limites et le corps, et les corps. L'amour respecte les limites qu'on lui donne et respecte les corps des autres. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 3 à 6. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que vous vous absteniez de l'impudicité. Ce que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est ce que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Lisons 1 Timothée chapitre 5 verset 2. Les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Dans 1 Thessaloniciens, Paul rappelle la sanctification dans le corps. Il revient à la question de la fraude et l'honnêteté financière dans les échanges commerciaux et économiques. Mais la sainteté que chacun tienne son corps dans la pureté et respecte le corps de l'autre et pas vivre l'impudicité. Et dans 1 Timothée 5, 2, Paul donne des instructions au pasteur Timothée. Il lui parle des relations qu'il doit avoir précisément avec les femmes âgées. Il doit le considérer comme des mères et celles qui sont plus jeunes comme des sœurs avec toute pureté. Avec toute pureté. Quand on dit qu'on aime, le corps de l'autre n'est à ma disposition qu'à à son consentement. Et dans les règles de ce que le Seigneur a donné. Tu ne tapes pas, tu ne frappes pas, tu ne fracasses pas la tête, tu ne jettes pas quelque chose sur quelqu'un que tu aimes. Comment ? C'est-à-dire que tu es chez toi et les gens viennent te voir et disent « Ah, où est ta femme ? Celle que tu aimes ?» Tu lui demandes de sortir. Elle a un bobo ici de comment tu l'as cogné hier. Waouh ! Je sais que c'est pas évident. Oh, je sais que c'est pas évident. Mais l'amour n'est pas censé dépasser les limites d'un corps à un autre. Parce que les mêmes personnes que voilà, elles ne sortent pas d'un restaurant ayant cogné la serveuse. Non. Quand quelque chose tombe malencontreusement sur leurs habits, c'est dit, ah non, désolé, désolé. Dis non, c'est pas grave, madame, c'est pas grave. Mais si un petit rien se fait chez lui à la maison, oh, il passe au rouge. On se demande, est-ce que tu l'aimes vraiment? L'amour respecte le corps de l'autre. Si tu penses que c'est une personne que tu aimes, attends. La Bible a dit, ne touche pas, attends. Ne touche pas, fais attention, limite-toi. L'amour doit apprendre à te limiter. Écoutez bien cette phrase. Le respect est la grammaire de l'amour. Là où les limites sont claires, l'amour reste pur. Si tu veux savoir un endroit où on parle amour, même si on n'a pas dit mot aimer, mais on aime, c'est là où on respecte. Tu sens que les gens sont respectés, ça veut dire que les gens sont aimés. Là où il y a l'amour, là où il y a les limites claires, l'amour est aussi clair. On voit que cette personne même, parce qu'elle sait attendre, c'est limité là où se trouvent les limites. Cinquièmement, l'amour tient parole et rend ce qu'il doit. Quand on dit l'amour ne fait rien de malhonnête, ça veut dire aussi que l'amour tient parole et rend ce qu'il doit. Si je te devais, je le fais. Matthieu chapitre 5, 37 dit, que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Romains 13, 8 dit, « Ne restez redevable de rien à personne sauf d'aimer, car l'amour est une dette dont nous ne pourrons jamais nous acquitter. D'ailleurs, celui qui aime satisfait à toutes les obligations de la loi. » Frères et sœurs, l'amour tient parole et rend ce qu'il doit. C'est ça l'amour qui ne fait rien de malhonnête. Je dois quelque chose à quelqu'un, je ne dois pas commencer à fuir derrière, non, non, non. Si je ne sais pas le rendre, je dois lui montrer que je n'arrive pas encore à rendre. Trouver le pardon ou trouver un arrangement. Mais si j'ai donné parole, je dois respecter la parole et rendre ce que je dois rendre. Écoutez cette phrase. La fidélité est la monnaie de l'amour. Si l'amour pouvait s'échanger, se donner par-ci, par-là, je te donne mon amour, tu me donnes ton amour, si on peut se donner de l'amour avec une certaine valeur, eh bien l'amour aurait comme monnaie d'échange la fidélité. C'est comme ça que deux personnes qui vivaient chacune d'entre elles chez elles, elles veulent se marier et vivre ensemble, ils se font fidélité, ils prononcent fidélité. Je donne une parole que je vais tenir. Et lorsque l'une ou l'autre brise cette parole de la fidélité, c'est là qu'on se dit, tu ne m'aimes pas. Sixièmement, l'amour protège la confiance, le sens de la confidentialité. Oh, en ce 21e siècle de l'intelligence artificielle et des réseaux sociaux, aimer signifie protéger la confidentialité de quelqu'un. L'amour ne fait rien de malhonnête, signifie l'amour se rassure que ce qui est privé à la personne reste privé. Je n'ai pas le droit de divulguer ce qui ne me permet pas de divulguer. Proverbe 11:13 dit, celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, mais celui qui a l'esprit fidèle les garde. Répand la calomnie, dévoile les secrets. Comment voudrez-vous expliquer aux gens que vous les aimez si vous les calomniez? Calomnier quelqu'un, ça veut simplement tout de suite dire que cette personne n'a pas la place d'amour dans ton cœur. Éphésiens chapitre 4, verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Frère, ce n'est pas parce que c'est sur Internet que tu dois t'en faire évangéliste d'un message comme celui-là. Des fois, il arrive que sur les réseaux sociaux tombe quelque chose de privé, mais ça ne devient pas une réalité officielle que tout le monde doit répandre partout. Si tu aimes et si ton cœur est rempli d'amour, protège la confiance des gens, protège leur confidentialité. Ne partage ni données personnelles, ne te mets pas à divulguer des informations de quelqu'un en disant que c'est par amour que tu le fais. Écoutez cette phrase, l'amour ferme la bouche pour garder les cœurs ouverts. Ouais, si vous aimez sincèrement, vous devez apprendre cette chose. Vous taire, juste fermer la bouche, n'est pas être obligé de commenter. Pour garder votre cœur ouvert vis-à-vis d'une personne. Pour que le moment où elle doit se repentir, le moment où elle doit chercher secours, vous soyez disponible et vous ne puissiez pas regretter les phrases que vous avez dites avant. Je vais vous proposer pratiquement et rapidement 8 choses à faire. Ça va être rapide. Voici comment vous pouvez faire pour vivre l'amour qui n'est pas malhonnête. 8 manières de vivre pratiquement cela. Un amour qui n'est pas malhonnête. 1. Garde un langage propre. Zéro moquerie, ni de sous-entendu blessant. Ne parle pas avec moquerie aux gens. Rassure-toi que dans tes mots, tu communiques la vérité. Tu veux un amour sans malhonnêteté, garde un langage propre. 2. Habille-toi avec pudeur et bon sens, en fonction du contexte. Un amour qui n'est pas malhonnête, c'est un amour qui respecte les autres par l'accoutrement déjà. Habille-toi de manière à respecter les autres. L'habit ne te respecte pas toi seulement, il respecte aussi les gens qui sont là à tes côtés. 3. N'écoute pas la parole, laisse finir. Tu veux apprendre à vivre un amour qui n'est pas malhonnête, coupe pas la parole, laisse finir les autres. 4. Arrive à l'heure par respect. Use de l'heure des autres, respecte les autres en respectant leur temps. C'est un signe d'amour très fort. 5. Demande la permission avant de partager une info ou une photo. Demande la permission. Impose-toi de demander la permission. Ça montre que tu aimes sans malhonnêteté. 6. Ne ridiculise pas en public, même pas en privé. N'aie pas cette habitude-là. Ne ridiculise pas, même si c'est sur un ton d'humour, mais ne dis pas quelque chose qui diminue la valeur de l'autre. 7. Range l'espace commun que tu utilises. Si tu veux montrer aux gens que tu les aimes, là où tout le monde utilise, c'est la table que tout le monde utilise, c'est la voiture que tout le monde utilise, c'est l'endroit, c'est la chaise où tout le monde se met. Quand tu l'as utilisé, pense aux autres. Si tu aimes les gens qui t'entourent, pense aux autres. Et 8. Tiens tes promesses du jour. Ce que tu as promis aujourd'hui, ne va pas dormir sans pouvoir tenir promesse. J'ai été le plus pragmatique possible. Et cette semaine, on va garder ce rythme de pragmatisme. Dieu vous bénisse et voyons-nous demain.
«
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires de EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Teach sur emcitv.com.